Christine. Alors, à tous nos auditrices et auditeurs de Radio Grincel, je me présente. Je suis en train de vous parler des rites et des pratiques anciennes de l'alimentation. Et là, on a la dernière partie qui est consacrée à la Mésopotamie. Bon, après avoir évoqué les banquets des rois et des dieux ou les repas abondants au 18e et 19e siècle avant Jésus-Christ, avec bien sûr tout ce que cela comporte de rites et de pratiques, nous voici donc au bout de cette émission. Sachez que celle-ci n'est pas terminée pour autant, puisque je vais vous parler ensuite de l'alimentation de certains pays anciens et empires anciens qui existaient à l'époque. Et ceci en plusieurs épisodes, bien entendu. Alors revenons donc à notre troisième et dernier volet. On voit dans la documentation de la Babylonie du Sud que le principe de fonctionnement, comme celui de la liste des ingrédients entrant dans la composition des offrandes alimentaires présentées à l'éesse Ishtar pendant la période néo-babylonienne, c'est-à-dire la première moitié du VIe siècle, on y trouve bien sûr du sel, des dattes, utilisées pour faire de l'alcool fermenté, mais aussi comme fruits et comme ingrédients de pâtisserie. De l'orge, de l'épeautre, du froment, du sésame, des grenades, du lait utilisé surtout pour y faire tremper de la farine et préparer une sorte de bouillie pâteuse. Des poissons pêchés dans les étangs appartenant en propre à la déesse, le temps bien sûr à la déesse Ishtar, et où seuls ses propres pêcheurs peuvent avoir le droit d'opérer. De la viande, bœuf, mouton, agneau, tourterelle, canard, oie, etc. Alors, à cette époque hellénistique, grâce au terme appelé rituel acadien, on dispose d'indications précieuses sur la variété et la qualité de ce qui est servi sur la table du dieu Anu et de sa parèdre, Antu, dans leur temple de la ville d'Uruk. Et la variété des produits présentés semble encore beaucoup plus importante. La seule rubrique « fruits » sont en effet citées des dattes, des figues, du raisin, des grenades et des pistaches. Ces textes de rituels précisent que des tables portatives, parfois jusqu'à 7 mètres de long, sont installées et qu'elles sont recouvertes de plaques or devant la statue divine. On utilise aussi des structures légères en roseau qu'on appelle des papyrus. Le rite est assez précis pour qu'on ait une bonne idée de ce que consomme la statue qui représente la divinité, puisqu'on distingue de la viande avec ses produits d'accompagnement, verdure, œufs, poissons, des pains et divers produits céréaliers, des boissons diverses. Pour la présentation de la viande, il est noté dans l'ouvrage de Botero sur la cuisine mésopotamienne la persistance d'une très ancienne tradition consistant à présenter de manière préférentielle de la viande grillée aux dieux. Cette viande grillée s'oppose bien sûr à la viande bouillie et l'on distingue par ailleurs dans certains textes entre viande crue qu'on appelle baltu et viande cuite qu'on appelle bachu. On considère que la viande cuite, bachu, est celle qui entre dans les préparations de type ragoût, tandis que la viande crue, baltu, est apportée fraîche et grillée sur un réchaud devant la statue ou à proximité de la table d'offrande. Le parfum de la viande grillée a au moins autant d'importance que son goût supposé et représente néanmoins probablement le mode de consommation essentiel. Pour ce qui concerne la viande bouillie, bachu, on pense que ce sont les épices d'accompagnement qui parfument le ragoût et lui donnent à la fois couleur et odeur, permettant ainsi à la statue divine de la consommer avec plaisir. Une distinction est fondée sur les sortes de viande provenant d'animaux différents. Bachu signifiant exactement cuisiné dans l'eau, c'est-à-dire bouilli. Voici ce qui est présenté en Uruk à l'époque séleucide pour les repas quotidiens. Menu en viande du grand repas et du repas secondaire de la matinée, présenté en offrande aux statues du dieu Anu et de la déesse Antu, c'est-à-dire les moutons de premier choix sans défaut, engraissés au grain pendant 2 ans, des moutons gras non dorés, non nourri au grain, à l'herbe, et au mouton gras nourri, lui, au lait. Le bœuf adulte, le veau de lait, le mouton sans défaut, engraissé au grain pendant 2 ans, mouton gras nourri au lait, mouton gras non nourri au grain, agneau, canard, nourri avec de la pâte de céréales, des poules nourries avec de la pâte de céréales, en oiseau marathou, des marais, pigeons ramiers, des œufs d'autruche et des œufs de canne. Cependant, les rituels ne se précisent pas la manière dont sont découpés et traités les morceaux de viande. Bien sûr, dans un contexte plus ancien, toujours à Uruk, il est précisé qu'un seul mouton est découpé en une trentaine de morceaux divers, la majorité étant constituée par des abats. Cette même opposition grillée et cuit se retrouve pour les céréales. On connaît plusieurs variétés de galettes de pain, de semoule, de bougie très identiques en fait à ce que propose l'actuelle cuisine orientale, mais aussi de manière régulière de la farine destinée à être grillée et classée selon les espèces de céréales, l'orge, millet, froment, épeautre, mais aussi le sésame, ou bien selon le degré de finesse du grain. Enfin, on suppose des préparations céréalières salées et sans agent de sapidité pour le pain ou préparations sucrées pour les gâteaux. Le même principe de variété se retrouve dans les services de boissons, mais porte moins sur la distinction entre boissons froides et boissons chaudes que sur les diverses sortes de préparations avec une répartition entre trois grandes catégories. Le calendrier religieux, lui, prévoit en Assyrie un grand banquet religieux annuel appelé Takutu, auquel participent à la fois le roi et les dieux. On notera que quelques points de convergence existent entre les repas royaux et les repas divins. Au premier millénaire, il y a une tendance nette à traiter la divinité comme le roi et à lui servir dans un lieu particulier, selon un rituel de table similaire et avec un contenu quantitativement et qualitativement proche des repas qui sont aussi bien des repas de roi que des repas de dieu. Le fait d'isoler la statue divine derrière les écrans de tissu au moment où elle consomme son repas pourrait refléter un certain protocole royal originel. Cette séparation peut d'ailleurs être purement symbolique par le biais de lignes ou de cercles de farine. Mais même si à l'époque néo-assyrienne, en particulier, la personne du roi est sacralisée, le banquet est lui une occasion de convivialité de la cour et le roi ne mange que très rarement seul. Le banquet sous la treille d'Assurbanipal, malgré sa célébrité, reste ainsi une exception et des inventaires provenant du temple d'Ishtar à Uruk montrent que le temple conservait dans son trésor des coupes précieuses et de la vaisselle d'or et d'argent utilisés pour les repas de fête et leur inventaire régulier montre que ces ustensiles n'étaient pas utilisés tous les jours. On les comparera de manière tout à fait significative aux inventaires de vaisselle précieuse de Marie, déjà évoqués, qui remplissent la même fonction de somptuosité et de prestige. Mais avec des différences plus ou moins importantes, comme par exemple la consommation de glace et de boissons froides parfumées, bien attestées à Marie. Concernant la question des écrans, les gens ordinaires n'étaient pas autorisés à voir la face. Le roi face à face. C'est pourquoi on couvre la figure de celui qui en a appelé à la parole du roi et donc à prendre comme une réalité royale tout ça au début du deuxième millénaire. S'agissant probablement d'une réalité du Proche-Orient occidental qui ne s'est pas maintenue en Babylonie, on ne la retrouve pas dans les rituels des temples babyloniens du premier millénaire. On note par ailleurs une autre différence entre les repas des dieux et les repas séculiers, ces derniers s'accompagnant de la consommation effective des plats servis, ce qui n'est pas le cas des dieux. Par contre, on multiplie les fumigations de produits odorants et alimentaires. L'orge, l'aromate, farine, encens, bois odorant dans les repas divins, alors qu'on se contente de l'odeur des brûle-parfums pour les fameux banquets royaux. Finalement, on constate que la richesse de l'apparat du repas, la variété et l'abondance des préparations alimentaires servies sont partagées par les repas royaux et par les repas des dieux. Le mode de consommation est, d'une manière évidente, différent. Réel pour le roi, symbolique pour les dieux, on l'aura bien sûr deviné. Pourtant, les deux types de repas génèrent un circuit de redistribution de ce qui n'a pas été consommé dans le palais comme dans le temple. La différence essentielle réside sans doute dans l'opposition entre la commensalité qui s'attache à toutes époques au repas royal et qui donne son sens au banquet du souverain d'un côté et la consommation entre deux étapes qui s'opère entre les temples. La divinité mange seule et isolée dans un espace consacré. Ensuite, les mêmes mets sont partagés et consommés par une partie du clergé du temple. L'ancien banquet sacré du troisième millénaire est, pour ainsi dire, déstructuré et réparti en deux étapes. Mais il faut bien avoir conscience que cette consommation par le personnel du sanctuaire a un véritable sens religieux et qu'il ne s'agit pas seulement de se nourrir à bon compte avec des offrandes. On évoquera en contrepoint pour finir la nourriture des humbles, ou ce que l'on pourrait appeler l'ordinaire mésopotamien. Il est présenté dans un conte satirique qui s'appelle « Le pauvre air de Nippur ». Un fabliau babylonien de la seconde moitié du deuxième millénaire et apparaît frugal, mais pas forcément insipide. Voici son histoire. Il était une fois un pauvre air au désespoir, nommé Jinmininurta, habitant Nippur. Son ventre brûlait de sentir l'odeur du pain. Son visage était défiguré par le désir d'une bonne viande et d'une bonne bière. Chaque jour, en manque de nourriture, il gisait, tenaillé par la faim, et n'avait à se mettre qu'un seul habit. Il pensa d'ailleurs, en son triste fort intérieur, « Si je me défaisais de mon seul habit pour acheter à un carrefour de ma ville, de Nippur, un mouton », ce qu'il fit aussitôt en se séparant de son seul habit et en achetant une chèvre de 3 ans. Réfléchissant à nouveau en lui-même, « Alors, admettons que j'égorge la chèvre dans ma chambrette. Cela ne fera pas vraiment un banquet, car où serait la bière ?» Mon voisinage va en être averti et ils vont se fâcher. Ma famille et mes parents vont être irrités contre moi. Il vaut mieux que j'aille à la maison du maire, que je lui apporte la chèvre en présent et que j'en retire le bénéfice en matière de relations personnelles. Il faut être dans la situation dramatique du pauvre air pour ne pouvoir consommer ni pain, ni viande, ni bière, qui sont la base de l'alimentation quotidienne. L'accès à une forme élémentaire du banquet n'est pas hors de portée, même des plus pauvres, car il suffit de vendre un méchant habit pour pouvoir s'acheter, sinon un mouton, du moins une chèvre. On est cependant bien loin des préparations raffinées et plantureuses servies dans les temples ou dans les palais, quand on sait qu'au niveau du VIe siècle, avant Jésus-Christ bien sûr, les statues du temple et de la déesse Ishtar à Uruk consommaient à elles seules l'équivalent de nourriture de 200 personnes environ. Voilà, chers auditeurs, je termine ici l'alimentation des Babyloniennes et je vous attends à la prochaine édition pour un autre sujet qui concerne toujours les nourritures anciennes, mais cette fois-ci en Grèce. À bientôt!